paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir. Le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants, pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Baptiste, Victor, Anne-Marie, Charlotte et Julien. Ce soir au sommaire du sous-marin, le bédéaste Étienne Davodeau sera dans le sous-marin à l'occasion de sa présence à l'exposition des images et des mots à la collégiale Saint-Martin. Il nous a accordé du temps, celui d'un café. Vous l'entendrez donc dans un entretien enregistré début novembre. Anne-Marie, tu feras en sorte que l'on comprenne enfin le CAC 40 qui n'est pas un jeu vidéo.
Du tout.
Charlotte et Julien remontés comme des pendules depuis mardi dernier. Je ne vous fais pas de dessin, nous parlerons sport en tout genre et en pleine forme à 19h45.
C'est ça.
Et comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée en juin et la bulle sonore. Mais tout de suite, on accueille Baptiste et Victor. Baptiste et Victor, c'est un peu comme Tic et Tac. Fifi, Riri, Fifi et Loulou, sans Loulou, bref, c'est un duo inséparable. Les voilà donc pour un billet d'humeur à deux voix, puisqu'ils sont souvent de la même humeur. Un billet d'humeur donc, que dis-je ? Un édito, une tribune, d'abord celle de Victor, mélancolique à souhait, de la Chiraki.
Oui, jeudi dernier, lors de la remise du 5e prix de la Fondation Jacques Chirac, le président de la République, François Hollande, est venu saluer l'ex-président Jacques Chirac avec un hommage émouvant et marqué sur les valeurs de l'ancien chef de l'État. Durant cette cérémonie qui se déroulait au Quai Branly, on pouvait apercevoir quelques ministres, tels que Manuel Valls ou encore Yamina Benguigui, mais aussi des Chiraciens comme Alain Juppé, François Baroin ou encore Michel Alliot. Les deux lauréats de ce prix, tous deux liés à la cause des femmes en Afrique, ont été ravis de voir deux présidents de la République unifiés pour montrer leur attache à des visions communes à propos de sujets si dramatiques et si sérieux. Ce qui ressort le plus de cette cérémonie n'est pas tant la réunion de ces deux hommes, mais surtout l'apparition d'un Jacques Chirac très affaibli, s'appuyant sur l'épaule du président de la République pour traverser la salle remplie d'émoi. Cet homme qui, tout au long de sa conquête du pouvoir, menait une vie intense et accélérée. Cet homme hyperactif qui pouvait, durant une même journée, inaugurer une église en Corrèze, marier son chauffeur à la mairie de Paris, faire un meeting pour le RPR, passer sur le plateau de Duhamel et Delcabache pour l'émission Carte sur table et terminer sa soirée dans son bureau à l'hôtel de ville pour préparer son discours annonçant sa candidature de 1980. Même les journalistes n'arrivaient pas à le suivre dans sa course phénoménale du pouvoir, surtout quand cela n'était pas de belles blondes aux formes avantageuses. Et des blondes, il en a grillé des paquets et des paquets, comme sa vie de famille s'est consumée au profit de sa carrière. Et le voilà, si tristement aux côtés de Valérie Trahi-Weller et de Bernadette, à commenter le discours de celui qui peut-être est le seul héritier de l'école de la Chiraki, François Hollande. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. En 1981, François Hollande fut parachuté en Corrèze pour affronter le jeune loup du RPR, Jacques Chirac. Ce dernier ne manquait pas de railler la popularité du candidat socialiste en le comparant au Labrador de François Mitterrand. C'est lors d'un meeting de Chirac que les deux hommes se rencontrent. Ce jour-là, Hollande, avec audace, prend la parole et se présente comme celui qui est comparé au Labrador de Mitterrand. Chirac rétorque qu'en tant que collègue de la Cour des comptes, il aurait pu lui envoyer une lettre pour manifester sa candidature. Hollande lui affirme qu'il l'a fait, et Chirac répond avec répartie que celle-ci n'était pas manuscrite. Les deux hommes se testent, se découvrent, au travers de la rhétorique politique, et déjà commencent à s'apprécier. Idéologiquement, ils ne sont pas si éloignés. On connaît chez Chirac son affiliation au radical-socialisme corrézien d'Henri Cueil. On sait aussi qu'il vendait dans sa jeunesse l'humanité, et qu'il avait signé une pétition contre le nucléaire. D'ailleurs, ce converti au gaullisme n'a pas manqué d'appeler à voter François Hollande lors des dernières élections présidentielles. Une boutade, paraît-il. Pour autant, s'il y a bien quelque chose qui unit ces deux rastignacs, c'est leur anti-sarkozisme. Adversaire politique pour l'un, traître baladurien pour l'autre. Dans l'exercice du pouvoir, Chirac et Hollande se ressemblent dans leur choix de la discrétion, de l'immobilisme et du goût du compromis, mais surtout dans leur impopularité très prématurée durant leur mandat respectif. C'est peut-être la politique étrangère qui sépare les deux hommes. Si dans la négociation avec l'Iran, Hollande est dans les pas du chiracisme, c'est bien le contre-pied qu'il prend lors de sa récente visite très complice en Israël.
Alors comme ça, Baptiste, Fabius a dit oui à l'accord avec l'Iran, et toi tu as ton point de vue sur la question.
Eh bien oui, ça y est, après avoir surpris tout le monde en ayant joué les gros bras lors des précédentes négociations à Genève, en se montrant plus hostile à l'Iran que les démocrates américains, il semblerait que Fabius ait enfin cédé. Lui qui, il y a encore deux semaines, s'était permis de faire capoter ces négociations pourtant cruciales. Il y a deux points qui étaient chers à Fabius. Le premier, c'est la sécurité d'Israël. On pourrait commencer déjà par souligner l'illégitimité de la position de l'État hébreu qui, ayant eu la malice de ne pas signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires, ne s'est pas soucié de l'opinion de ses voisins pour constituer son armada militaire. Mais bon, comme nous l'a si sympathiquement rappelé Monsieur Ariel Sharon, ex-premier ministre israélien en 2001, Israël peut avoir le droit de mettre d'autres en jugement, mais certainement personne n'a le droit de mettre le peuple juif et l'État d'Israël en jugement. Alors à quoi bon ? Ah, pas négligeable à savoir non plus, plus de 16 agences de renseignement américaines ont pourtant considéré dans leur rapport qu'elles accordent un haut degré de confiance sur le fait que l'Iran ait arrêté son programme d'armement nucléaire fin 2003. Mais ça, encore, personne ne semble vouloir l'entendre. Pour ce qui est de sa sécurité, rappelons quand même que l'Iran tient depuis plusieurs décennies une politique tiers-mondiste, soutient et finance les mouvements de résistance palestiniens et instrumentalise ce conflit. Difficile alors d'imaginer bombarder Israël sans toucher de Palestiniens. Ça ne colle pas. Non, ce qui embête principalement Israël sur ce point, c'est l'hypothèse de perdre un jour son monopole du nucléaire dans la région. Mais en quoi est-ce une priorité pour la France ? Enfin, le deuxième gros intérêt, c'est que si cet accord avait été véritablement saboté, les monarchies du Golfe se seraient montrées reconnaissantes car elles aussi auraient été ravies de voir leur ennemi chiite, sérieux concurrent pétrolier, maintenu dans cette position d'isolement insécuritaire et donc totalement écarté du marché international pétrolier.
Donc qu'est-ce que tu déduis de ce changement de situation ?
Eh bien, peut-être que tout est retombé dans l'ordre des choses. En effet, le rôle qu'a tenu à prendre Fabius ne correspondait pas avec les ambitions de son premier patron américain, qui a bien failli voir le pétrole iranien qu'il pourrait obtenir lui filer entre les doigts. Car pour jouer au gros bras, encore faut-il en avoir les moyens. En l'occurrence, nous étions bien loin du compte. Cet élan de fausse autonomie s'est donc fait stopper en plein vol. Mais ce qu'il y a encore de plus intéressant à identifier, c'est que dans les deux cas de figure, la France n'a encore une fois pas agi pour ses propres intérêts. Dans le premier cas, elle semble payer une culpabilité que son histoire lui impose, et dans le deuxième cas, elle se laisse séduire par l'appât du gain belliqueux des pétromonarchies. Après avoir compris depuis la défaite de Napoléon à Waterloo qu'elle n'était plus la première puissance influente occidentale, elle semble également s'être décidée depuis l'ex-président Nicolas Sarkozy à ne plus poursuivre sa politique de reconquête gaulliste tenue durant 40 ans, qui, soucieux de son image et de ses relations dans le tiers-monde, ne s'empêchait pas pour autant d'entreprendre des rapprochements avec les nations dans lesquelles elle voyait ses propres intérêts sans se soucier du consentement et du joug des Américains. N'étant plus que l'ombre de ce qu'elle était, satisfaite de son rôle de figurant, elle se résout peureusement en Europe à ne prendre que les miettes du gâteau laissé par l'Allemagne repue, tout en fermant les yeux face aux grands défis que l'avenir lui pose. Alors plutôt que de réaffirmer sa souveraineté si chère à son histoire et d'entrevoir d'autres alliances naturelles, elle persiste à se laisser manœuvrer crapuleusement par d'autres puissances. Si les félons de la Gaule durant l'Empire romain ont pu jouir de 5 siècles de tranquillité avant de devoir répondre de leur trahison, l'histoire nous a montré qu'il peut falloir moins de temps pour identifier les transfuges, trompeurs et vendus. Alors combien de temps encore pour Monsieur Fabius avant que l'histoire ne le juge pour ses manquements ?
Victor et Baptiste, que l'on retrouvera tous les lundis soirs pour leur billet d'humeur. Et tout de suite, on écoute The Kills, Fried My Little Brains.
Classic trolls on my back. Classic little milk tea, all gone bad. Won't move over, won't get on, won't move over. Fried my little brains.
C'était le 5 novembre dernier, Étienne Davodeau était à la Collégiale Saint-Martin où il exposait jusqu'en janvier avec d'autres bédéastes. L'exposition s'appelle « Des images et des mots » et retrace 100 ans de bande dessinée. Ce jour-là, il participait à une table ronde sur le Louvre en BD, car pendant un an, Étienne Davodeau a pu arpenter les couloirs, les greniers, les sous-sols du Louvre. Il en est sorti sa nouvelle BD « Le chien qui louche ». Bref, Étienne Davodeau avait des choses à raconter. De l'Anjou aux militants, de la BD reportage au Festival d'Angoulême, il nous aurait fallu au moins 12 cafés pour aborder tout le reste, mais nous avons commencé par un. Vous êtes à la Collégiale Saint-Martin, vous êtes exposé pour l'exposition Les images et des mots jusqu'en janvier 2014 et vous êtes au milieu de 5 autres bédéastes de l'Anjou. Quel lien vous entretenez avec cette communauté de bédéastes ?
Eh bien, en fait, la ville d'Angers est maintenant une sorte de petit pôle régional autour de la bande dessinée. Il y a pas mal d'auteurs de bande dessinée, effectivement, et je crois même qu'il y en a de plus en plus. Il y a une époque pas si lointaine, d'une quinzaine d'années, on était beaucoup moins nombreux. D'encore actifs maintenant, il y avait principalement Pascal Rabaté, Marc-Antoine Mathieu et moi. Et puis, s'est créé un atelier qui s'appelle La Boîte qui fait bœuf, qui est toujours actif de nos jours, qui a fédéré pas mal de gens. Donc tout ça fait une petite communauté, mais en même temps, donc on se voit, hein, on se voit dans les festivals, pas forcément Angers d'ailleurs, ça peut être n'importe où en France ou ailleurs. Mais en même temps, il n'y a pas une école, il n'y a pas un style angevin, évidemment. Très peu de choses seraient communes à mes livres et à ceux de Marc-Antoine Mathieu, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'une école au sens artistique du terme. Il s'agit juste de gens qui font le même métier, qui, pour la plupart du temps, se connaissent un peu ou beaucoup, se fréquentent de temps en temps. Mais c'est vrai que ça fait une petite communauté.
Vous restez encore très lié à l'Anjou, vous y habitez.
Oui.
Et il y a beaucoup de vos BD qui sont imprégnés encore de cette région.
Ouais.
Ça influe sur votre travail ?
Peut-être que ça influe malgré moi, mais en tout cas, je cherche pas à... Comment vous dire ça ? Les livres que je fais sont essentiellement nourris de choses que je vis au quotidien. Et donc voilà, moi je vis ici et maintenant. Donc dans mes livres, il y a effectivement la marque de l'ouest de la France au début du XXIe siècle, clairement. Parce que c'est mon quotidien, c'est ma matière première de mes livres. Si j'étais un Australien à Melbourne, ce serait très différent, mais je ne suis pas un Australien à Melbourne, voilà. Donc je fais avec ce que j'ai. Mais effectivement, du coup, l'Anjou est dans mes livres. Mais en même temps, rien ne m'emmerderait plus que de passer pour un auteur régionaliste. Parce que pour être tout à fait franc, il faut bien être quelque part. Je suis en Anjou, j'en tire aucune fierté, ni aucune honte particulière. J'ai pas du tout cet esprit cocardier. Voilà, il y a l'Anjou dans mes livres, mais uniquement pour cette raison-là.
Et dans vos livres, il y a aussi ce qu'on appelle assez rapidement les petites gens. C'est lié à quoi ? Ça vient d'où ?
Ouais, les mauvais gens, c'est le portrait du milieu dans lequel j'ai grandi, qui est effectivement un milieu modeste, dans les Mauges. Un milieu ouvrier, militant, syndicaliste, engagé politiquement. Donc moi j'ai grandi là-dedans et donc les mauvais gens c'est les portraits de ces gens-là. Et moi je viens de là en fait, même si je n'ai jamais été ouvrier moi-même, même si je ne fais pas partie de la classe ouvrière non plus, mais c'est le moule qui m'a construit en quelque sorte. Donc j'ai une espèce d'attachement assez naturel à ces gens-là. Et vivant moi-même dans un petit village, mes amis ayant des boulots comme tous les Français moyens, enfin voilà, donc moi c'est le milieu que j'ai envie de décrire parce que c'est le milieu que je connais bien. A contrario, si je devais dessiner et raconter des histoires de top modèles ou de gens qui vivent dans la jet set, je serais très emmerdé parce que je les connais pas, ils m'intéressent pas beaucoup. Et si je devais le faire, je serais obligé d'emprunter à d'autres, dans des livres, dans des films, les univers que je vais raconter. Et ça, j'aime pas beaucoup faire ça. Je me sens pas plus légitime à raconter une histoire qui se passera dans la jet set qu'une histoire qui se passera dans le Kansas en 1880 parce que j'y étais pas. Alors si je dessinais des westerns, je le dessinerais d'après les westerns que j'ai vus, que j'ai lus. Et moi, en bande dessinée, j'aime bien prélever les choses dans la réalité immédiate. Incontestablement, je suis plus à l'aise pour dessiner des vignes que pour dessiner Paris ou le Louvre, dont je sors là justement.
Alors justement, ce livre, Le chien qui louche, vous pouvez nous en dire un mot ?
Le chien qui louche, c'est un livre qui se passe intégralement au Louvre et qui est issu d'une proposition. Mon éditeur, Futuropolis, qui est une filiale de Gallimard, entretient une collaboration avec les éditions du Louvre, le musée du Louvre, un département éditorial assez actif, plus actif que je ne l'imaginais avant de les connaître d'ailleurs. Et ils ont proposé à des auteurs de bande dessinée de venir pratiquer leur art au Louvre, et donc de venir raconter en bande dessinée le Louvre. Voilà. Et moi, c'est pas un travail de commande dans le sens où c'est moi qui ai demandé à faire partie de l'expérience. Et donc, c'est une sorte de jeu qui consiste à recevoir, pour un auteur, à recevoir un laissez-passer qui nous donne un accès total et gratuit et permanent au Louvre pendant un an. Je peux aller où je veux, quand je veux, j'ai pas de restrictions. Et la contrepartie de ça, c'est simplement de se laisser s'immerger dans le Louvre, se laisser imprégner de ce qui s'y passe et de raconter une histoire. Donc, mon livre est le, je sais pas, 7, 8, 9e de la collection. Et donc, c'est une expérience qui m'intéressait beaucoup parce que déjà, la bande dessinée au Louvre, c'était pas gagné. Enfin, il y a 20 ans, c'était inconcevable. Et puis c'est un lieu qui est fascinant à dessiner, évidemment. C'est un énorme vaisseau spatial comme ça qui travaille les œuvres d'art à travers les siècles. Enfin, c'est un truc assez monumental. Et le fait de pouvoir y passer beaucoup de temps est vraiment intéressant. Donc, Le Chien qui louche, c'est ça. C'est une comédie, malgré tout. C'est-à-dire que c'est une fiction, c'est une histoire que j'ai inventée, c'est pas un documentaire. Mais malgré tout, c'est assez documenté. Mais c'est une fiction assez légère sur, qui raconte l'histoire d'un cambriolage à l'envers au Louvre. L'idée, c'est l'histoire d'un tableau, non pas qu'on veut extraire du Louvre, mais que des gens voudraient faire rentrer au Louvre pour qu'ils bénéficient de la légitimité officielle du musée du Louvre. Voilà.
Alors, comme vous dites, vous avez eu un laissez-passer pour aller n'importe où, pas de restrictions, ça implique les coulisses, ça implique les sous-sols, ça implique...
Alors, bah, évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Même si, au final, dans mon livre, j'ai bien constaté que j'ai pas beaucoup utilisé les coulisses. On voit un peu les salles de repos des surveillants, des choses comme ça, mais ce laissez-passer était vraiment un laissez-passer. C'est-à-dire que... J'y allais quand c'était fermé, j'y allais quand c'était ouvert, j'y suis même resté une nuit. C'est-à-dire que je suis arrivé un soir à 18h, je me suis laissé enfermer. Et puis je suis sorti le lendemain matin à 8h. Et donc le Louvre, la nuit, c'est un truc absolument fascinant. Et même des endroits où on ne va jamais, comme les toits du Louvre par exemple. On m'a dit, si tu veux, tu peux même aller sur les toits du Louvre. Alors j'ai dit, bah oui, je vais y aller, évidemment. Donc ça, on y va avec des pompiers, parce que c'est un peu casse-gueule, c'est un peu vertigineux. Mais voilà, c'est des endroits, évidemment, je pense à ne jamais aller de ma vie. Et évidemment, les coulisses, évidemment, les ateliers de restauration, évidemment, les endroits où sont archivées les œuvres qui ne sont pas exposées. Les bureaux, enfin, c'est une ville. Hein, Nicolas Philibert a fait un documentaire vidéo qui s'appelle La Ville de Louvre. C'est vraiment ça, c'est une ville dans la ville.
Alors justement, une nuit au Louvre, ça ressemble à quoi ?
Une nuit au Louvre, ben, c'est un truc assez étonnant. Alors, je l'ai fait avec un camarade qui lui finissait son livre, c'est David Prudhomme, qui a dessiné la traversée du Louvre. Lui est en train de terminer son livre, moi je commençais le mien, Le Chien qui louche, et donc on s'est dit que ce serait plus marrant à deux. La nuit au Louvre jusqu'à 23h, c'est assez décevant parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent. Il y a des gens qui font le ménage d'abord, tous les jours. Il y a des gens qui vérifient et réparent les éclairages, qui remettent les tableaux d'aplomb, qui font des contrôles divers, enfin il y a beaucoup de monde. Et à 23h, là l'obscurité se fait, enfin l'obscurité partielle, mais presque totale dans certains coins. Et le Louvre n'est plus parcouru que par des veilleurs de nuit, qui sont par équipe de deux, et qui toute la nuit marchent dans le Louvre. C'est très très long, on peut marcher des heures et des heures dans le Louvre sans passer deux fois au même endroit, parce qu'on commence par passer dans les fondations du Louvre, là où il y a toute la tuyauterie technique, les réseaux électriques, d'eau, etc. Et puis ensuite on va dans les sous-sols, où il y a un circuit routier, vraiment routier, pour des véhicules électriques qui vont pour déplacer les œuvres, pour la manutention. Ensuite il y a les différents niveaux du musée lui-même, et ensuite il y a le niveau qui est entre le plafond et les toits, qui est le niveau le plus surveillé, où les veilleurs de nuit passent plusieurs fois dans la nuit, parce que ce qui redoute, c'est pas les flammes, c'est l'eau, c'est la fuite d'eau qui viendrait détériorer quelque chose. Donc, une nuit au Louvre, c'est une randonnée en fait. C'est une randonnée interminable, mais dans une atmosphère absolument magnifique, puisqu'on est dans la pénombre et on est seul. Être seul dans la salle de la Joconde, c'est un truc assez marrant la nuit.
Beaucoup de vos livres qui sont documentaires, c'est une mouvance qui est née il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors non, c'est vrai, c'est pas si vieux. Il faut distinguer deux choses. Si on considère que la bande dessinée documentaire, elle a existé aussi dans la presse, c'est-à-dire que Cabu, dans les années 70, faisait des 3, 4, 5, 10 pages de documentaires ou de reportages dans Charlie Hebdo ou dans Harakiri, des choses comme ça. Ça, c'est pas très récent, ça date des années 70, ce qui est pas si vieux, mais le documentaire ou le reportage en forme de livre de bande dessinée, c'est quelque chose qui est relativement récent, qui a en gros une vingtaine d'années maintenant. Moi, j'ai publié Rural, donc, qui est le récit d'une année passée, une année complète passée dans une ferme près d'Angers, au moment où le chantier de l'autoroute Angers-Cholet coupait en deux cette ferme. C'était en 2000, donc voilà, c'était publié en 2001, je crois. Donc voilà, c'est relativement récent. C'est un genre qui se développe un peu, qui se développe même pas mal ces dernières années. Et surtout, c'est un genre qui a connu quelques succès publics assez intéressants et du coup qui éveille l'appétit des éditeurs, qui se disent « Ah, ce genre de bouquin peut marcher, donc on va peut-être en faire d'autres ». Donc il y a une espèce de petit effet en ce moment de mode, disons. Mais il y a aussi un mouvement de fond. Il faut distinguer les deux. Je pense qu'il y a un effet de mode qui passera, comme tous les effets de mode. Et puis il y a un mouvement de fond qui est initié par des gens qui bossent ce sujet-là vraiment sérieusement et qui voient sa concrétisation dans la parution en septembre dernier là, du numéro 1 d'une revue qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est une revue qu'on trouve en librairie, une belle grosse revue, qui n'est consacrée qu'à ça, qu'aux documentaires ou aux reportages en bande dessinée. Et c'est évidemment moi, un sujet qui m'intéresse, puisque en France, j'étais un des seuls, en tout cas dans les années 2000, à le faire, on n'était pas très nombreux. Et c'est un sujet qui m'intéresse toujours, que je continue à faire. Et c'est sans doute une des veines de la bande dessinée les plus actives et les plus intéressantes en ce moment, de mon point de vue.
Il y a un autre sujet que vous abordez assez souvent, c'est le militantisme, sous plusieurs formes.
Ouais.
Est-ce que ça vous agace si on pense de vous que vous êtes un auteur militant ?
Ça ne m'agace pas particulièrement, mais je ne pense pas que ce soit exact. C'est-à-dire que le fait de faire des portraits de gens qui sont des militants ne fait pas de moi automatiquement un militant. Mais les faits parlent contre moi, en quelque sorte, puisque sans le vouloir, parce que c'était pas prévu pour, quand j'ai dessiné Rural, qui raconte les gens, le combat de ces agriculteurs dont je viens de parler, qui sont des gens de ma génération, en gros, qui ont une cinquantaine d'années, 40-50 ans, quand je raconte les mauvais gens, qui est plutôt le portrait des gens de la génération de mes parents, qui ont 70 ans maintenant, et quand, entre les deux, j'ai dessiné un homme et mort qui se passe à Brest dans les années 50, c'est des gens qui sont maintenant des octo-nonagénaires, donc sans le vouloir, j'ai dessiné des portraits de militants de trois générations successives. Mais encore une fois, c'est absolument pas un choix de ma part. Mais les faits sont là, je fais des portraits de militants. Parce que ce sont des gens qui m'intéressent, tout simplement. Ce sont des gens qui essaient de lutter contre une condition qu'on leur impose. Ce sont des gens qui ont des choses à raconter, souvent. Et des gens à qui on ne donne pas souvent l'occasion de le faire. Voilà, moi je fais de la bande dessinée, je fais des livres qui sont lus par quelques milliers, dizaines de milliers de personnes. Donc j'ai un petit pouvoir de donner comme ça un micro à quelqu'un et de dire vas-y raconte-moi ton histoire. Et ce petit pouvoir j'aime bien l'utiliser pour donner la parole justement à des gens dont je pense qu'ils l'ont pas eu assez ou ils l'ont pas assez. Et les militants font partie de ces gens-là. Ouais.
Et le fait que les mauvaises gens soient primés à Angoulême ?
Ce qui m'a assez convaincu dans l'accueil des mauvais gens, c'est que quand moi j'allais voir les gens en question pour leur demander raconte-moi ton histoire, raconte-moi tes combats syndicaux dans les usines des Mauges dans les années 50-60, ils me disaient toujours mais ça intéresse personne, qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire ce livre, personne va lire ça, tu vas te planter. Et quand Les mauvais gens est sorti, il a eu un accueil que j'espérais même pas, il a eu effectivement des prix importants à Angoulême, plusieurs, ce qui est assez rare. Et pour moi, c'était une façon de leur dire, bah, tu vois, tu t'es trompé, ton histoire que je raconte, elle intéresse des gens. Elle intéresse des gens un peu partout, en France, à l'étranger, le livre est traduit. Et pour ça, je suis assez fier que ce livre ait eu cet accueil-là. Pour moi aussi, à titre personnel, mais aussi pour ça, pour leur dire, tu me disais, ton histoire n'intéresserait personne, tu t'es trompé.
Vous étiez en train de prendre un café avec Étienne Davodeau. Juste après la pause musicale et la chronique d'Anne-Marie, vous l'entendrez parler du succès public et médiatique, de la légitimation de la BD et de ses lectures de chevet. Mais avant, donc, on écoute The Villagers avec Judgment Call.
All the dirt and the worry left when realized that I knew it all, how it started and how it's gonna end.
It's a judgment call,
and I don't need no proof.
It's a judgment call,
the writing's on my wall.
It's a judgment,
and you can come if you get behind it, and if you wear this long white shawl, 'cause we're the clean and the right and the chosen ones. And I don't need no proof.
It's a judgment call.
The writing's on my wall.
It's a judgment.
And we gotta keep the wheels in motion. And we gotta get the kids before they grow. God forbid they redeem their sense of wonder.
It's a judgment call.
Their sense of wonder.
It's a judgment call.
Their sense of wonder.
I don't need to think for myself. Oh, I don't need to think.
Et voilà venue l'heure d'y comprendre quelque chose en économie avec Anne-Marie, de revoir les bases de potasser les manuels.
Exactement. Ce matin, le CAC 40 a augmenté de 0,54%. Honnêtement, Tiffaine, as-tu compris quelque chose ?
Non.
Bon, alors sortez crayon et papier, on va se faire une petite séance de rattrapage. Non, allez, je rigole, soyez juste attentifs, retenez votre souffle. 1, 2, 3, partez. Le CAC 40 est le principal indice boursier en France. Il regroupe les 40 entreprises qui ont les valeurs mobilières les plus actives.
C'est quoi une valeur mobilière ?
C'est soit un titre de propriété qui prouve que l'on est propriétaire de quelque chose, par exemple une action, c'est une part de propriété d'une entreprise sur laquelle on spécule. C'est-à-dire qu'on va anticiper l'évolution du prix de l'action à court ou moyen terme. Une entreprise qui a besoin d'argent pour investir va émettre des actions. C'est comme si on vendait des petites parts de l'entreprise contre de l'argent. Ce peut être aussi des titres de créance. L'entreprise reconnaît alors qu'elle vous doit de l'argent. Tous les titres financiers, on les retrouve sur la bourse, là où se rencontrent l'offre et la demande de titres financiers. Elle permet ainsi à une personne, une entreprise ou une institution qui ont de l'argent d'investir directement, sans passer par une banque, dans une entreprise. On dit qu'il y a cotation d'un titre quand il rentre en bourse. Par exemple, LVMH est coté en bourse. Et si LVMH émet trop de titres et que la demande est insuffisante, alors le prix va baisser pour que les personnes achètent les titres. À l'inverse, s'il y a beaucoup de demandes, alors le prix des titres va augmenter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais si ça marchait comme ça, ce serait trop simple. Comme je vous l'ai dit, on spécule sur les titres financiers en anticipant ce qui va se passer. Et si d'un coup, un actionnaire de LVMH décide de revendre ses actions, les autres actionnaires vont s'inquiéter car peut-être que cette personne a une information que les autres n'ont pas. C'est l'asymétrie d'information. En fonction de la façon dont les autres agissent, on se demande s'ils ont une info ou non. Allez, pour sortir un peu du monde de la finance, pour mieux comprendre l'asymétrie d'information, je vais vous expliquer tout ça par la théorie de Keynes. Keynes, je vous précise, c'est un économiste pour les incultes. Donc, notre très cher Keynes a développé la théorie du concours de beauté. Imaginez que vous êtes juré à un concours de beauté et que vous gagnez quelque chose, non pas parce que vous avez nommé la plus jolie fille, mais parce que vous avez voté pour la gagnante. Alors là, ça change tout. Vous ne vous demandez plus qui est la plus belle, mais qu'est-ce que les autres pensent ? Et c'est ça, la symétrie d'information. C'est ne pas savoir ce que l'autre pense et donc supposer ce à quoi il pense.
Et les bulles spéculatives, qu'est-ce que c'est ?
C'est une bulle de prix. On price une action plus chère, c'est-à-dire on gonfle le prix, la bulle, et on gonfle sa valeur réelle, et la bulle résiste jusqu'à ce que quelqu'un panique ou que quelqu'un en fasse preuve de rationalité. Imaginons qu'un groupe d'actionnaires achète des actions en grand nombre pour les revendre ensuite à un prix élevé. Mais du coup, ils vivent un peu dans l'angoisse. Ok, plus ils attendent, plus les prix s'enflamment, mais si quelqu'un décide de vendre, ça peut aller encore. Mais si, dans ce cas-là, c'est plusieurs personnes décident de vendre, et bien dans ce cas-là, il va y avoir un vent de panique. Ils vont être plusieurs à revendre toutes les actions, et du coup, les prix vont retomber, et la bulle va exploser. Je vais vous donner un vrai exemple d'une bulle spéculative un peu spéciale qui est rentrée dans les annales. En 2012, je sais, ça remonte, Facebook est entrée sur le marché boursier. Elle s'est fait coter. Et donc, les banques Morgan Stanley, Gordon et Chase ont donc étudié son dossier pour pricer les actions à leur entrée en bourse. Rappelez-vous, plus le prix de l'action d'une entreprise est élevé, plus elle gagne de l'argent, ainsi que les banques, car elles touchent un pourcentage à l'heure de l'entrée sur le marché. Du coup, d'un commun accord, Morgan Stanley, Gordon et Chase, avec Facebook, ont décidé de surévaluer les actions. Au lieu de pricer une action de Facebook à 24 dollars, son prix réel, ils l'ont pricé à 38 dollars sur le marché. Et ça a fait un flop. Ajoutez à cela quelques soucis techniques, et bien le cours de l'action de Facebook a chuté, pour stagner ensuite, pendant quelques temps, à 21 dollars. Car Facebook, en voulant faire le malin, avait oublié une règle principale du marché, c'est qu'il s'autorégule. C'est pour ça qu'une bulle spéculative explose toujours à la fin.
Mais alors quand on dit que le cours du CAC 40 a augmenté de 0,54%, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en moyenne, sur les 40 titres d'entreprise, il y a eu une évolution du prix moyen de 0,54% de plus que le prix moyen d'auparavant, donc c'est-à-dire de la veille, puisque c'était de ce matin. Puisqu'il faut savoir que la bourse, elle est recalculée à chaque ouverture le matin, donc vers 8h, 9h, et à chaque fermeture à 17h le soir.
Oui, sinon, le CAC 40 est tout ok. Il y en a d'autres, des indices boursiers dans le monde ?
À peu près tous les pays en ont un, si ce n'est plus. Et je vais vous donner deux autres indices boursiers qui influent énormément le monde de la bourse. Il y a le Dow Jones, c'est l'indice de bourse dans le secteur industriel, donc le secteur industriel américain, et le Nasdaq, qui est le marché boursier des entreprises innovantes. On y retrouve Apple et Facebook, par exemple. Ils cotent environ 3500 sociétés. Autant dire qu'à côté, le CAC 40, c'est un peu petit. Bon, j'espère que Tiffaine, j'ai pu t'éclairer sur tous ces termes économiques.
Oui, et j'espère que d'ici à la fin de l'année, on pourra tous mettre notre argent en bourse sans se gourer. Et on reprend tout de suite la conversation avec Étienne Davodeau, qui évoque l'importance du succès public et de ses projets à venir.
Le succès public de mes derniers livres n'a rien changé, puisque cette liberté-là, j'avais fait en sorte de l'obtenir avant. C'est plus facile maintenant, parce que voilà, je fais des livres moins risqués pour les éditeurs, puisqu'ils se vendent mieux. Mais ça, c'est un problème purement comptable, qui n'a pas d'autre incidence que celle-là. Voilà, moi, je ne me pose pas cette question-là. Je suis évidemment ravi que mes livres marchent mieux qu'ils ne marchaient. Ce que je sais, c'est qu'en 2001, quand on a publié Rural, si ce livre s'était planté complètement, j'aurais sans doute pas pu faire Les Mauvaises Gens, ni ceux d'après. Donc, il est important à un moment qu'il y ait une légitimation, pas forcément par le succès public, parce que c'était des succès publics modestes, mais au moins par un accueil critique un peu attentif, par des réactions de lecteurs qui nous renvoient quelque chose, qui est un écho, quoi. Qu'on lance pas un bouquin comme on lance une balle et que rien ne revienne, quoi. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça permet de se dire, voilà, je suis peut-être pas sur un chemin complètement idiot. Je suis un peu tout seul, là, sur le chemin, mais peut-être que ce chemin mène quelque part. Et au début, c'est vrai que c'est un peu rassurant. Il faut l'avouer, oui, bien sûr.
Vous parliez de l'accueil critique. Est-ce que vous ressentez le fait que depuis peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, la BD prend davantage de place dans la critique? Avant, la BD, c'était plutôt... un art qu'on prenait plus à la légère, non ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une évolution. Il y a une évolution régulière, lente, mais persistante de l'image qu'ont les gens en général de la bande dessinée et l'image qu'en ont aussi les milieux médiatiques. La bande dessinée a longtemps été totalement absente des médias, des grands médias, je veux dire, des médias généralistes. Elle a toujours eu ses médias propres. Il y a toujours eu des revues de bande dessinée. En plus, maintenant, il y a des sites de bande dessinée, des blogs, enfin, il y en a à foison. Mais la presse généraliste, c'est relativement récent. Je crois que ça vient de deux choses principalement. D'abord, des livres qui sont faits, c'est-à-dire que les livres qui sont faits ont aussi quitté un moule un peu standardisé qui définissait la bande dessinée il y a 10 ou 15 ou 20 ans, c'est-à-dire c'était l'aventure, c'était l'humour, c'était le sexe, c'était l'historique. On a quitté ça. Et puis il y a aussi un effet générationnel, c'est-à-dire que les gens qui sont maintenant en poste dans les grands médias sont des gens qui ont l'âge d'avoir lu de la bande dessinée et d'avoir une image de la bande dessinée, sans doute, disons, moins ringarde que ce que la génération d'avant pouvait entretenir. Donc ils sont moins... Sur le principe, ils sont moins hostiles à l'idée de parler de bande dessinée. Mais ne rêvons pas. Une bande dessinée qui sort aura toujours une exposition médiatique 100 fois moins importante que le moindre petit film. Parce que c'est pas la même économie, parce que c'est pas les mêmes réseaux, parce que c'est pas le même impact. Mais il est vrai, de toute façon, quand même, que l'accueil change un peu, ouais, que l'accueil va plutôt dans le bon sens. Ceci dit, ça peut aussi avoir des effets négatifs, c'est-à-dire que ce côté institutionnalisé de la bande dessinée peut aussi l'endormir, la ramollir, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, donc il faut être vigilant à ça.
C'est le cas actuellement, vous trouvez ?
Je pense pas que ce soit le cas, mais moi, il m'arrive encore de temps en temps, de moins en moins souvent, d'aller dans des collèges ou des lycées parler de bande dessinée. Quand moi, j'avais l'âge d'être collégien, lire de la bande dessinée, c'était quasiment faire un acte de résistance à la culture officielle. C'est-à-dire que mes parents n'aimaient pas que je lise de la bande dessinée. Maintenant, les parents des ados, ils sont ravis s'ils lisent quelque chose, y compris si c'est de la bande dessinée. Autrement dit, pour des gens qui sont au collège maintenant, quand on leur fait lire de la bande dessinée, ils disent « Oh, pff, lire un truc, ça me fait chier. » Quand on leur fasse lire Madame Bovary ou une bande dessinée, sauf si c'est du manga, et encore, pour eux, c'est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient des adultes, qui vient de la structure qui les encadre. Et donc, le petit côté un peu pirate que nous, on aimait dans la bande dessinée a totalement disparu, je pense, pour des adolescents de maintenant.
Et vous lisiez quoi, vous, quand vous aviez 13 ans, justement ?
Je lisais pas grand-chose parce que j'avais peu accès à des livres. Si, j'avais un petit peu de bande dessinée, mais moi, je viens d'un milieu où la bande dessinée était très peu présente. Je connaissais pas d'autres gens de mon âge, de mon entourage, qui s'intéressaient autant que moi à la bande dessinée, encore moins qui en faisaient. Donc je lisais les livres qu'on m'offrait à mon anniversaire, à Noël, ou que je pouvais m'acheter avec mon argent de poche, mais ils étaient pas bien nombreux. Et donc je relisais beaucoup. C'est-à-dire que voilà, il y a des Tintins, des Gastons ou des Astérix que je dois connaître à peu près par cœur 40 ans après, parce qu'à force de les avoir lus, ils sont restés gravés dans mon subconscient, je sais pas. Mais ça, c'est pas si mal en fait, parce que à force de relire, on rentre dans le détail des choses. Et un livre qui se relit sans fatigue, c'est un bon livre. Moi, même encore maintenant, un livre ou un film, quelle que soit sa nature, qu'on revoit avec plaisir 2, 3, 4 fois, c'est un livre qui nous donne de la matière plus qu'un autre. Je viens de voir Gravity, je sais que dans 8 jours je l'aurais oublié. Il n'y a pas grand chose dans Gravity qui m'a passionné. C'est très beau, c'est très spectaculaire. J'ai eu le vertige en orbite autour de la Terre, mais voilà, c'est un plat copieux et sucré, mais une fois que je l'aurai digéré, il ne me restera pas grand chose. Il y a d'autres livres, d'autres films qu'on a envie de revoir, qui nous résistent, etc. Moi j'étais dans cette situation-là, au contraint en quelque sorte, parce que par défaut je devais relire les livres que j'avais, mais j'y ai trouvé une vertu, c'est-à-dire la vertu de rentrer dans le détail des livres qu'on laissait à m'apporter.
Et aujourd'hui vous lisez quoi ?
Je lis encore un peu de bande dessinée, je lis des livres que j'achète, ça m'arrive, je lis des livres qu'on m'envoie, j'en reçois beaucoup, les livres de mon éditeur qu'on m'envoie aussi. Il y a des livres, par exemple j'ai lu un livre qui semble avoir un bon accueil, qui s'appelle « Mauvais genre » de Chloé Cruchaudet récemment, qui est pas mal. J'ai lu l'entrevue de Manuel Fior, qui a déjà quelques mois chez Futuropolis, qui est vachement bien, en bande dessinée, je parle. Et j'ai relu récemment un roman d'Hubert Mingarelli qui s'appelle « Un repas en hiver » relu, parce que c'est un livre justement qui me permet de relire et qui me donne envie d'y revenir. Donc ça doit être la 2e ou 3e fois que je le relis. C'est très ouvert, je picore beaucoup, quoi.
Et quels sont vos projets pour les mois ou les années à venir ? Est-ce qu'il y a des idées qui ont germé, dont on peut parler, là ?
Eh bien, je commence tout juste. J'ai dessiné hier la première page de mon prochain livre, donc c'est tout vraiment au début, là. C'est un livre qui sera un documentaire, donc je reviens au documentaire en bande dessinée. C'est un livre que je fais en collaboration avec un journaliste de France Inter qui s'appelle Benoît Colombat. Et c'est un livre qui va nous donner l'occasion de faire une balade dans l'arrière-cuisine pas très ragoûtant de la 5e République dans les années 70, à l'époque où on mourait beaucoup dans les cercles du pouvoir, où un ministre Boulin était suicidé, entre guillemets, où le juge Renault à Lyon était assassiné, où il y avait la tuerie du sac, où il y avait toute une espèce de contagion entre le milieu et la politique, qui est un truc qu'on connaît mal. On connaît toutes ces affaires de façon détachée, mais en les reliant, on espère donner à voir une période et une partie de l'histoire de France qui n'est pas très glorieuse, mais qui est quand même intéressante, parce que c'est le socle sur lequel on vit encore maintenant. Et donc on a commencé à travailler là-dessus depuis cet été, et donc on est en train d'accumuler des témoignages, on rencontre beaucoup de gens qui sont des juges, des avocats, des gens qui sont sortis de prison, qui ont participé à des braquages, etc. Et donc ça s'appellera « Cher pays de notre enfance », ça sortira chez Futuropolis, si tout va bien, fin 2015, et voilà, c'est un travail que je commence tout juste.
Merci beaucoup.
Et bien merci à vous.
L'exposition des images et des mots est à voir à la Collégiale Saint-Martin jusqu'au 5 janvier. À noter aussi qu'en janvier sortira Lulu, femme nue, le film adapté des livres d'Étienne Davodeau, qui a d'ailleurs déjà été projeté au 400 coups la semaine dernière. Et tout de suite pour bronzer, on écoute The Sun, Baxter Dury.
Sits at home, playing with no one. never told us that we're gonna be left alone. No one ever told us that we're gonna be left alone. No one ever told us that we're gonna be left alone.
Vous ne pouvez pas le voir, mais ils ont encore des traces de pastel bleu, blanc, rouge sur les joues. Ils ont des poches sous les yeux d'avoir tant fêté le 3-0 de l'équipe de France face à l'Ukraine. Ce sont nos deux chroniqueurs sportifs, Charlotte et Julien.
Alors Tiffaine, tu as hésité à dire « Allez les Bleus » la semaine dernière. Eh bien, tu as bien fait de le faire parce que oui, on a gagné.
Oh oui, ils ont gagné. Personne n'a pu passer à côté. Nous allons donc manger du bleu pendant 7 mois au moins jusqu'à Rio. Mais à part les Bleus, puisqu'on a encore le droit de parler d'autre chose, au programme cette semaine, défaite pour les Sco et nos Ducs, les basketteurs, eux, se reprennent. Mais on va d'abord commencer par le 15 de France, pas au niveau de l'Afrique du Sud samedi soir.
Oui, il ne fallait pas arriver en retard au Stade de France ce samedi. Un dégagement manqué de Morgan Parra à la première minute de jeu a permis aux Springboks de prendre l'avantage dès le début du match. Un essai et 4 pénalités plus tard, l'Afrique du Sud s'impose face à la France sur le score de 19 à 10. A noter que les Bucks se sont vus refuser 2 essais par l'arbitrage vidéo. Le score aurait donc pu être plus sévère.
Figurez-vous que j'ai regardé un match de foot samedi. Non, ils me font mentir. Et pas des moindres, nos Françaises jouaient face à la Bulgarie samedi soir.
On parlait de score sévère, en voilà un. 6-0 à la mi-temps, 10-0 à la fin du match. Et oui, comme quoi, les filles, ça joue au football. Et elles sont actuellement premières du groupe 7 de qualification pour le Mondial 2015. Ce score, c'est en partie grâce à Marie-Laure Dely et Gaëtan Tinet qui ont toutes les deux marqué un triplé. 4 buts en 10 minutes, un exemple de rapidité que nos garçons devraient imiter au Brésil. Et si vous ne savez pas quoi faire, le match retour aura lieu au Mans à 20h45.
On reste dans le football avec la défaite surprise du SCO vendredi soir contre Clermont.
Les joueurs de Stéphane Moulin se sont fait surprendre par une équipe qui était revancharde après son élimination la semaine dernière en Coupe de France contre des joueurs de division d'honneur.
Avec un score de 2-0, les Clermontois nous ont prouvé qu'ils avaient toujours leur place en Ligue 2. Un match électrique qui s'est terminé par une altercation entre Friquet et Lipini. Les deux joueurs ont donc été expulsés. Le numéro 15 d'Angers a d'ailleurs admis avoir mal réagi sur le coup de la frustration liée à la défaite.
En conférence de presse, le coach nous rappelle que son équipe est toujours sur le podium. L'essentiel est là, espérons que nos joueurs se reprennent vendredi face à Caen.
Angers est donc 3e derrière Metz et Lens après 15 journées. Et samedi noir aussi pour les Ducs d'Angers qui s'inclinent face au Gothique d'Amiens en hockey sur glace.
C'était un match à suspense samedi soir sur la patinoire du Haras. Les deux équipes étaient dos à dos, un partout à la fin du second tiers-temps. Et les spectateurs ont eu le droit à une avalanche de buts pendant la dernière période.
On a vu pas moins de 7 buts dans le dernier tiers-temps. Nos Ducs ont pris l'avantage à 2 reprises sans réussir à faire le break. Défaite 5-4 dans un final assez fou. Angers se classe 5e de la Ligue Magnus avec 14 points. Prochain adversaire Chamonix en Coupe de la Ligue mardi soir.
Week-end victorieux pour nos clubs de basket angevin. Les gars comme les filles jouent à domicile et ont offert à leurs supporters la joie de la victoire.
Et oui, nos joueurs de l'ABC sont toujours invaincus à domicile. Victoire facile contre Sorgue, 87 à 63. Thibaut Lonzième était en feu puisqu'il a inscrit 22 points en 27 minutes. Bien épaulé par Erwan André, auteur de 6 points, 11 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes.
L'ABC est donc solide leader de National 1 avec 19 points, suivi de très près par Monaco, une équipe qui a de quoi faire peur puisqu'elle est sur une série de 7 victoires consécutives. Vichy à 18 points complète le trio de tête à égalité avec les Monégasques. Vendredi soir, nos joueurs se rendent à Saint-Chamond, 4e au classement.
Seconde victoire de la saison pour les filles de David Gérandière. L'équipe d'Angers a battu samedi Mondeville 79-61. Une victoire capitale dans l'optique du maintien. Prestation qui rassure nos Angevines et surtout leur donne de l'espoir pour les prochaines rencontres.
Murphy termine encore meilleure marqueuse du match avec 14 points. Prochaine rencontre au Hainaut, actuellement 9e au classement, juste devant notre équipe.
Après la trêve liée au barrage de la Coupe du Monde, la Ligue 1 faisait son retour ce week-end pour notre plus grand plaisir. Mais dites-moi, d'après mon texte, je suis curieuse de savoir ce qu'a fait Zlatan contre Reims.
Zlatan ne joue pas toute seule quand même, mais c'est vrai qu'il a encore marqué dans ce match. Le PSG gagne où il avait perdu l'an dernier. Victoire 3-0 avec des buts de Lucas, Menez et bien sûr Ibra.
Évidemment. Bon, en tout cas, l'Olympique de Marseille a aussi gagné vendredi soir et c'était contre Ajaccio sur le score de 3-1. Les trois buts sont signés Payet, Gignac et Thauvin.
Et le grand match du week-end, celui du dimanche soir, opposait les Canaries du FC Nantes à l'AS Monaco.
Un grand match qui n'en était finalement pas un. Un but et quelques actions importantes, voilà comment on peut résumer ce match.
Sur 90 minutes, c'est sûr que ça fait peu. Enfin, 1-0, c'est le résultat de ce match. Et le pénalty non accordé au Monégasque sur une faute du gardien nantais aurait pu aggraver la marque.
Le FC Nantes s'est repris dans les dernières minutes en marquant un but qui a finalement été refusé par l'arbitre.
Mounir Obadi a marqué lui l'unique but de la rencontre, un très beau but marqué aux 20 mètres. Monaco, qui restait sur 3 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, a conforté sa 3e place ce dimanche en s'imposant donc à Nantes 1-0.
Allez, c'est tout pour ce week-end.
Et c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup nous deux sportifs, c'est toujours un plaisir de causer football avec vous. Comme tous les soirs, on termine avec l'agenda. Ça commence dans 10 minutes à l'Arena Loire de Trélazé avec un concert d'Indochine. Si vous vous réveillez et que vous êtes motivé, j'imagine que des badauds vendent encore des places à l'entrée. Pour votre info, le prix de départ, c'était 40 euros quand même. Dans le cadre du mois du film documentaire qui se termine vendredi, vous pourrez voir Water au 400 coups à 20h15. La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur et Christian Pillet, géographe et vice-président de l'Université d'Angers. Et puis enfin au Donald's Blind Test musical dès 20h. Une annonce pour terminer le 14 juin, ce sera déjà la 5e édition de la journée de valorisation de la jeunesse et la mairie lance un appel pour participer à sa préparation. Si vous avez entre 15 et 30 ans et que vous êtes motivé, prenez donc contact avec la mission jeunesse de la ville, mission.jeunesse@ville.angers.fr. Voilà, il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était David et derrière les micros, Baptiste, Victor, Anne-Marie, Charlotte et Julien. Vous pouvez nous réécouter demain à partir de 13h ou sur notre site internet. Tout de suite, vous retrouvez Doloréane, l'émission Histoire de Radio Campus. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Ce sont les souvenirs des cinéphiles du Variété le jour de sa fermeture. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain, 19h. Allez, bisous.
Ça fait 30 ans qu'on est là, donc régulièrement, venez aux Variétés. Je ne sais plus quel film on a pu voir.
Dans le pré.
Ah oui,
on avait
oui. Ah,
c'est ça.
Oui, c'est vrai. On était venus ensemble d'ailleurs.
Oui, oui. Oui.
Et puis le dernier avec Danny Boom, là, comment
les
c'était
ch'tis.
Les ch'tis, voilà.
Je suis d'Angers, donc voilà, moi ici je suis venue voir plein de films enfants. Voilà, c'est aussi pour ça.
Votre plus grand souvenir de film ici, c'est quoi ?
C'était, j'étais enfant, mais je suis venue voir, ça relatait les faits de mai 68. Puis c'est une page qui se tourne, même personnellement, quoi. Les variétés s'en vont, voilà. Moi, ça faisait partie de... Je suis angevine, quoi.
Je suis venue ici la première fois, j'avais 5 ans, donc ça fait 40 ans.
Et alors, quel est votre meilleur souvenir de film ici ?
Je sais pas, Bernard et Bianca, à l'époque où c'était encore un vieux théâtre en velours rouge. Voilà, c'était pas pour le cinéma parce qu'il était vieillot et même petite, on touchait déjà, les genoux touchaient déjà, mais voilà, c'est la première expérience de cinéma presque.
Moi, je déplore parce que quand j'étais petite fille, je venais toujours là, notamment à Noël, voir les films de Walt Disney qui sortaient. Donc, c'est un peu une page qui se tourne.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.